CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission aujourd'hui, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans 80 pays. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Richard.
Et Annie Pinquier, directrice du pôle public du groupe EPSA. Bonjour Annie.
Bonjour Richard.
Bonjour Jean-Philippe et bonjour Annie, bonjour à tous les deux. Donc aujourd'hui nous recevons Karine Pichon, directrice finance et risques chez Coface. Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors vous êtes parisienne, très vite pendant vos études, vous savez que vous c'est les chiffres hein, votre truc et vous allez aller vers la finance, c'est ça?
Oui, très vite, oui, effectivement. J'ai fait une prépa classique, école de commerce, et puis très rapidement, voilà, les cours de finance m'ont intéressé, un stage en audit, toujours intéressant, et puis on continue dans la finance après, donc j'ai suivi la voie.
Le stage, c'était chez Price, c'est ça?
C'est ça, tout
évidemment.
À fait.
Et alors, vous êtes ensuite, vous êtes tellement parfaite qu'ils vous engagent directement. Et alors, au bout de 3 mois, vous vivez un moment rare. On est chez AXA, racontez-nous.
Oui, c'est effectivement assez rare, parce que quand vous arrivez, surtout dans la vie professionnelle, à l'époque, quand j'ai commencé dans l'audit, il n'y avait pas cette séparation aussi ferme entre l'audit et le conseil. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvée un dimanche, parce qu'on travaillait quand même pas mal aussi, à participer à des décisions autour de la fusion entre AXA et UAP. Alors UAP, pour certains, peut-être les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais à l'époque c'était quand même aussi gros qu'AXA en France, et donc c'était assez passionnant, voilà, à ma petite échelle évidemment, de participer avec des gens très importants à cette décision et après évidemment la communication financière derrière.
Et ça marque évidemment. Alors vous allez y rester 6 ans hein, chez Price, vous participez à pas mal de grosses fusions, vous faites aussi du conseil à ce moment-là?
On fait également du conseil, tout à fait. C'était vraiment à l'époque où, comme je vous dis, il n'y avait pas de séparation, donc essentiellement dans les institutions financières. C'était aussi l'époque de la création de ce qu'on appelle des banques assurances, c'est-à-dire que les banquiers sont devenus assureurs à l'époque. Maintenant, c'est une évidence, mais oui, c'était pas le cas. Et donc, c'était la création de beaucoup d'entités. Et donc, on accompagnait aussi la structuration de toute cette métamorphose de l'assurance dans le monde bancaire.
Et puis alors, l'envie de changer, en tout cas, on vous appelle, on vous propose justement de faire de l'assurance crédit. Alors là, vous avez envie de changer, vous voilà chez Coface. Qu'est-ce que c'est la Coface?
Alors Coface...
Ils ne savent pas, hein, parce que...
Non, Coface, c'est une société qui a 75 ans, en fait, voilà, qui est dans plus de 105 pays et dont l'objet, en fait, est d'aider le commerce. Donc, on assure, en fait, le commerce international et aussi le commerce domestique. Donc, si une société vend, elle veut être sûre de pouvoir, en fait, récupérer le fruit de sa vente. Et donc, quelquefois, ça ne se passe pas très bien. Et donc, on est là pour l'aider à récupérer, pour analyser également la société avec laquelle elle travaille. Et donc, on fait ça pour près de 500 milliards d'engagements dans le monde. Donc,
combien de salariés?
4300 salariés, voilà, dans 105 pays, un peu plus de 70 nationalités. Donc c'est une boîte qui est très très internationale.
Une tour de Babel.
Oui, on va dire ça, avec un langage commun quand même.
Allez Annie.
Oui, vous parliez tout à l'heure de métamorphose. Est-ce que la crise sanitaire que l'on a vécue est une nouvelle phase et implique une pression spécifique sur votre métier de directeur financier risque?
Enfin, sur notre métier, puis même sur le métier de la Coface, parce que si vous voulez, nous, on assure un risque de faillite d'entreprise. Donc, au moment où on est rentré dans la crise, on s'est quand même tous regardés en se demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit revoir nos engagements? Faut qu'on accompagne nos clients? Comment on analyse une entreprise quand elle ne sait même pas si demain elle va pouvoir faire son chiffre d'affaires ou autre? Donc, on a dû, de manière très agile, s'adapter, suivre également toutes les aides gouvernementales, parler beaucoup avec nos clients. On a quasiment triplé le nombre de points de contact avec nos clients pour être en capacité d'évaluer les ruptures de chaîne qu'ils pouvaient avoir, leur incapacité à vendre. Et c'était une agilité, je dirais, au jour le jour. Donc après 18 mois, on a finalement fait des résultats records. C'est que même le nombre de faillites a baissé. Mais ce n'était pas du tout ce qui était anticipé il y a 18 mois. Donc je pense qu'il faut être relativement humble par rapport à ça.
C'était un peu au jour le jour, hein, on va dire.
Ah, c'était oui. Et puis ça reste, je pense qu'il y a... on est dans un monde, en tout cas, où on peut faire un tas de scénarios dans le monde financier, mais fondamentalement, je dirais pas qu'on va les remettre à la poubelle, mais pas loin. La crise sanitaire, personne ne l'avait envisagée et on s'y est retrouvé. On ne sait pas trop ce qui va être dans le futur non plus. Donc, il faut surtout être humble. On fait des scénarios, mais restons agiles et à l'écoute de ce qui se passe.
Annie,
Et est-ce que vous considérez que cette réflexion ou cette agilité est une parenthèse finalement par rapport au chemin habituel de vos analyses? Est-ce que dans cette parenthèse, vous avez mis de côté également le caractère soutenable des investissements?
Alors pas du tout, c'est un choix qu'on a fait assez rapidement. Qui est de ne pas, par exemple, comme on avait quand même un sujet de visibilité sur le coût que ça allait nous coûter, notamment en termes de risque, par rapport à nos engagements, on s'est dit, il faut quand même qu'on avait un plan stratégique, on l'a lancé 15 jours avant le début des premiers lockdowns. Donc, on parlait, voilà, en termes de timing là-dessus, c'est assez intéressant. Et on a juste regardé dans le plan stratégique certains investissements qui concrètement ne pouvaient pas être mis en place. Voilà, quand on voulait développer des forces commerciales, c'est un peu compliqué aux États-Unis si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais globalement, on a maintenu tous nos investissements et c'est un choix qu'on a fait de continuer à être sur le long terme tout en essayant de gérer le court terme qui était effectivement très chaud à ce moment-là.
Jean-Philippe ?
Oui, je reviens sur la période des 18 mois du Covid. Votre activité, elle est forcément, enfin, la couverture de l'activité, elle est mondiale. Quelles sont les zones géographiques qui ont été les plus touchées ou les moins touchées en matière de baisse d'activité ?
Alors, on a vu, enfin, l'Asie a plutôt bien performé au début, parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'Asie, finalement, la crise Covid, c'était un peu plus tard. Donc, on a vu une Asie qui tenait plutôt bien, et globalement, toutes les autres industries et pays du monde qui s'effondraient. On a eu des baisses d'activité très, très, très importantes. Nos clients nous déclarent leur chiffre d'affaires. Donc, on a vu des chutes très, très importantes de chiffre d'affaires. Et de même, là, aujourd'hui, depuis 3-4 mois, on voit un rebond extraordinaire. Donc on voit vraiment qu'on repart très fortement. Il y a quand même des pays qui ont plus souffert que d'autres. Je dirais que les pays émergents, notamment l'Amérique du Sud, voilà, l'Argentine, les pays qui avaient déjà fondamentalement des difficultés structurelles, le Covid a en rajouté et donc a un peu accéléré certaines difficultés dans certains pays. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que globalement, partout dans le monde, ça repart.
Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une baisse des faillites, mais c'est parce que les entreprises ont eu des aides ou des...
C'est ça. En fait, je pense que, en fait, moi, les gouvernements en général, les banques centrales, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou même la Fed aux États-Unis, ont injecté un niveau de liquidité et des aides qui sont très efficaces. Et c'est une des raisons principales pour laquelle il y a des faillites en cascade qui auraient dû avoir lieu. Quand on n'a plus de chiffre d'affaires, on n'a plus de trésorerie, donc ça fait des faillites. Et donc, toutes ces aides-là, clairement, ont aidé à supporter... les entreprises, elles ont été très très efficaces. La grande question maintenant, c'est qu'on va s'en sortir, voilà. En tout cas, voilà. Et donc, ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas, ce qui est annoncé politiquement, c'est que ça va être graduel. Donc, ça doit pouvoir aider les sociétés à repartir dans leur activité pour qu'elles puissent rembourser au fur et à mesure les aides qui ont pu être données par les gouvernements.
Oui, bien sûr. Dans vos grilles d'analyse des risques ou des financements accordés, est-ce que la COFAS regarde la politique RSE, la politique environnementale, ou est-ce que c'est complètement hors zone ?
Alors, on regarde tout ce qui peut conduire à faire une faillite. Donc, c'est de manière un peu évidente, il y a un certain nombre de secteurs, s'ils ne prennent pas le sujet de la transition énergétique, je vous prends par exemple les voitures, si les voitures ne se mettent pas à faire des voitures hybrides ou autres, le constructeur va avoir des difficultés. Donc, c'était pris plus sous cet angle-là, et c'est intégré parce que c'est une composante du risque importante. Je veux dire, c'est un risque, la transition aussi écologique. Et on est en train de développer, mais c'est tout au début, une réflexion autour de comment on pourrait, quelque part, donner une note, si vous voulez, aux entreprises en fonction de ce critère RSE. Ça n'existe pas. Les notations que vous avez actuellement, c'est sur des très grands groupes pour... et autres. Et donc, nous, on a plus de 60 millions d'entreprises, dont des PME. Donc, il y a toute une réflexion qu'on co-construit pour intégrer ça dans l'analyse du risque.
Oui, c'est clair, merci.
Les entreprises vont avoir plein de notes maintenant partout, ça va être formidable. Allez, Karine, pour vous, le plus beau métier du monde, c'est quoi ? C'est libraire ou CFO ?
C'est celui qui nous anime le matin quand on se lève. Voilà. Donc, libraire, j'aurais aimé être CFO. Et en plus, je ne suis plus CFO dans 2 mois. Parce qu'en fait, au 1er novembre, j'ai la chance de prendre la direction générale de COFAS en France et aussi en Angleterre-Suisse. Voilà. Donc, comme quoi, voilà, c'est aussi des métiers qui amènent à faire d'autres choses. Donc, voilà, c'est une animation le matin et une énergie.
Et ça s'entend et ça se voit. J'ai entendu dire également que vous étiez une championne du monde du ceviche. Alors oui. Là, on veut la recette. Obligatoire.
Non, non, j'ai découvert récemment le ceviche dans un restaurant péruvien. Je trouvais ça très sympa.
Oui,
et voilà. Et donc, finalement, c'est pas si mal. Et donc, voilà, j'en ai fait récemment avec voilà, du bar, la mangue, voilà, des choses comme ça.
Ah, c'est sympa, ça. Voilà. Un petit mélange. Un morceau avec ça.
Pourquoi pas, oui, morceau, exactement.
Alors, vous nous avez conseillé La papeterie de Tsubaki. Oui. Bien, librairie, papeterie. Ouais. C'est le livre que vous avez conseillé.
Oui.
Pourquoi?
Parce que, alors, c'est d'une japonaise qui s'appelle Ito Ogawa. C'est en fait l'histoire d'une japonaise dans un petit village qui tient une papeterie qui est écrivain public. Et en fait, les gens viennent pour écrire des lettres, ce qui ne se fait plus trop aujourd'hui. Et donc, en fait, elle raconte l'histoire des gens à travers ces lettres. Et voilà, c'est assez poétique. C'est au Japon. Voilà, ça nous fait voyager. J'aime bien.
Bon, et pour vous défouler, un peu de course.
Voilà, un peu de course, mais pas de semi-marathon, mais un peu de course quand même.
Comme certains de nos intervenants, effectivement. Merci beaucoup, Karine, vous êtes formidable. Merci également à vous, Jean-Philippe et Annie. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.